Qui nous montre bien l'essence de mortalité de l'homme et puis d'immortalité de sa personnalité. L'homme est mortel, mais la personnalité de l'homme est immortelle. Et déjà dans cet hymne national, on sent qu'on est mortel, mais que nous voulons, nous devons cultiver une personnalité qui peut laisser des choses sur la terre qui vont aider les autres générations qui vont venir. C'est comme ça que nous parlons de la postérité. Voilà. Alors maintenant, nous allons entrer dans la partie des cercles d'études, donc la partie la plus intéressante, et la partie donc de la réflexion, de la méditation sur la République, comme le Premier ministre Lumumba nous avait convié à ça. Alors, comment nous allons faire? Tous nos panélistes sont ici. Et comme nous avions dit, mais nous allons commencer par le professeur Diarra. Mais je voudrais avoir le plaisir de présenter un peu son livre en public ici. Voilà le livre dont j'ai parlé à l'introduction. C'est les droits des peuples, des origines jusqu'à la création de l'ONU. Et quand on parle du mois de juin, quand on parle du jeudi 30 juin 1960, c'est la journée où on devait parler des droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes, à s'autodéterminer. Et le professeur Diarra a écrit ça. Essayons de lire ce livre-là, parce qu'il cache beaucoup de sagesse. Est-ce qu'il a un graphique ici, sur le mille lézardés. Et il voudrait le montrer au... Peut-être Mathieu. Mathieu, can you, est-ce que tu peux arranger à ce qu'il parvienne à montrer... Il veut montrer le mur lézardé. Monsieur Massa et Monsieur Zongo, ils connaissent bien ce que ça veut dire en Afrique, le mur lézardé.
Juste,
Vous l'avez?
Sur la projecteur?
Oui, oui.
Bon,
Et sur la, le, ça aussi, mais je crois que... Je... Après, vous allez montrer le tableau.
Je veux aussi changer de côté, si tu veux. Pour voir la lumière dans le visage. En fait, je vais mettre ici.
Ah, ok, ouais.
Ou si ça va, non, tu peux le laisser là même.
Ça, 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 ça peut marcher parce que le,
il y a assez de câble là.
Il est quand même assez long. Donc, ça peut marcher à la couverture.
En fait, je le montre, mais la réalité, c'est pour...
Peut-être que vous allez avoir la lumière dans le visage.
Alors, Mbote, ou Yambo, Yambo, c'est ça?
Yambo.
Yambo, c'est ça, Yambo. En fait, je vous dis ça parce que je parle d'un sujet, les droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes, et je suis toujours profondément triste lorsque je m'adresse à mes frères africains de devoir utiliser la langue du colonisateur pour m'exprimer. Et je vous jure, à la Coupe du Monde de football qui a eu lieu en Allemagne, et j'ai suivi attentivement la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en Allemagne, donc, et je regardais les pays qui étaient là, et lorsque on ouvre le match, il y a toujours les hymnes nationaux qu'on chante, et toutes les équipes qui venaient chantaient leur hymne dans leur langue. Il n'y a que les équipes africaines qui chantaient leur hymne, soit en français ou en anglais. Alors, j'étais d'autant plus triste que cela me rappelait, n'est-ce pas, une phrase de notre regretté Aimé Césaire, n'est-ce pas, j'appartiens à la race des opprimés. Et je vous jure, la pire des choses qui puissent arriver à un peuple, c'est d'être dominé par un autre. Et je pense que ce n'est pas un travail considérable au-dessus des capacités des Congolais et des Africains de façon générale, de d'abord commencer à s'affirmer dans leur langue nationale. Évidemment, il y a des gens, ce n'est pas un argument, qui vont vous dire, mais il y a 250 ethnies, ou il y a plus que ça, n'est-ce pas? Si on s'exprime dans une seule langue, les autres vont se révolter et donc ils trouvent dans le prétexte, n'est-ce pas, un argument en disant donc recourons encore au français, à l'anglais ou à l'espagnol ou au chinois, tout sauf les langues nationales. Alors, quand au Mali un député m'a dit cela, c'est le cas que je connais le moins mal puisque je suis ressortissant du Mali, je lui ai dit, écoute, c'est indigne de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de me dire qu'avant l'arrivée des Français, des Anglais, Donc, des Européens en Afrique, il n'y avait pas de communication entre les peuples. Alors que le Mali, l'Empire du Mali, pour ceux qui le connaissent, n'est-ce pas, a eu la possibilité de développer une culture très, très brillante, qui avait ses représentants diplomatiques jusqu'en Chine. Et donc, comment le roi du Mali, l'Empire Malinké, faisait pour gérer, n'est-ce pas, ces grands ensembles polyglottes? Parce que sa philosophie était que la société mandingue était une société, n'est-ce pas, qui était plurale, et dans cette société plurale, l'unité de l'Empire ne signifiait pas homogénéité. Et le roi, à partir des Niani, pouvait gouverner les Touaregs, pouvait gouverner, n'est-ce pas, dont la langue est différente évidemment de la sienne. Et donc, il le faisait par le fait que sa conception du pouvoir n'était pas despotique, mais segmentaire, n'est-ce pas? Ce qui lui permettait évidemment de pouvoir communiquer et de pouvoir laisser les autres peuples qui sont partis entières de l'Empire de se développer dans leur langue, plutôt que de les homogénéiser, ou plutôt que de faire comme les princes français qui, dans leur volonté d'unifier l'administration, ont tout simplement créé la langue franque, n'est-ce pas, pour unifier les différentes ethnies. Ils ont créé une langue de l'administration qui est devenue la langue. La conception, donc, du pouvoir en Afrique n'est pas celle-là. Et c'est la raison pour laquelle je m'excuse de vous exprimer encore. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation qu'en fait, il est grand temps que les enfants africains comprennent qu'aucun peuple ne peut se développer dans la culture d'un autre. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Et que ni linguistiquement, ni politiquement, ni socialement, vous n'êtes ni des Français, ni des Anglais, ni, n'est-ce pas, des Portugais. Et donc, il faut arrêter de vous caractériser en disant des choses aussi banales que nous appartenons à l'Afrique francophone, ce qui justifie, n'est-ce pas, de chanter vos hymnes et de vous administrer, n'est-ce pas, dans la langue du colonisateur. Le colonisateur vous respectera d'autant plus que vous direz, comme je l'ai dit à ce député malien, écoute, l'unité du Mali, n'est-ce pas, avant que le colonisateur français ne vienne, les Maliens se gouvernaient. Et les Maliens étaient encore des peuples multiethniques et polyglottes. Et donc ce n'est pas pour moi un argument, c'est plutôt l'expression, n'est-ce pas, d'une indignité et au fond aussi d'un manque de prise de conscience. En fait, il me fallait faire cette introduction, non pas pour faire des reproches, mais tout simplement pour situer les choses à l'endroit, n'est-ce pas? D'autant plus que M. Ndandou a eu l'amabilité de me demander de prendre la parole pour vous parler d'une question fondamentale qu'on appelle les droits des peuples. Alors, il a voulu que je projette, n'est-ce pas, la première page et donner une signification comme préalable, n'est-ce pas, à l'illustration qui est sur la couverture 1 de cet ouvrage. En fait, cela, c'est un adage de l'Afrique de l'Ouest, mais particulièrement de la région des peuples mandingues, qu'en fait, lorsque le mur est lézardé, le mur laisse rentrer des forces externes. Et qu'en fait, il s'agit d'une invitation, c'est une exigence, c'est-à-dire qu'au fond, quand j'ai choisi cette image, c'était de dire, j'arrête de culpabiliser. Je veux dire, j'ai des problèmes, je ne peux pas dire parce que j'ai été esclavagisé, j'ai été colonisé, je ne peux pas faire que ces événements n'aient pas eu lieu, que ces événements historiques n'aient pas lieu, n'est-ce pas? Mais je peux être exigeant envers moi-même. Et ce mur qui est l'expression, depuis que j'étais du dos de ma maman, n'est-ce pas, qu'on m'a enseigné, m'a toujours demandé d'être exigeant d'abord envers moi-même. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je parlais de droit des peuples, je me suis dit, le langage que je vais tenir est un langage inhabituel, n'est-ce pas, qu'en fait, la plupart des gens qui ont eu, qui connaissent l'histoire de ce document savent que, au fond, il est le résultat tout simplement de la recherche que j'ai faite à l'Université de Montréal, non pas parce que j'étais préoccupé par des questions académiques, mais tout simplement parce que j'avais été atteint dans ma dignité d'homme et qui a fait en sorte que lorsque un professeur est venu me voir, après avoir examiné ma recherche en maîtrise, il me demande de faire une thèse avec lui et me propose de me payer et il m'amène la bibliographie d'un sujet d'anthropologie criminelle et me demande de réfléchir. Évidemment, dans ma condition, n'est-ce pas, je ne pouvais qu'accepter. Il m'a donné heureusement une semaine de réflexion avant qu'on s'engage à travailler ensemble. Et durant cette semaine, j'apprenais une histoire qui était arrivée en Afrique du Sud particulièrement. Il s'agissait effectivement du procès d'un jeune homme, Van der Merwe, qui fêtait ses 19 ans et qui estimait que ce jour-là, il devait s'offrir un cadeau. Et le cadeau qu'il devait s'offrir, c'était de tuer un noir ce jour-là, parce qu'en Afrique du Sud, il n'en avait pas tué. Et effectivement, le jour de ses 19 ans, il s'est levé et puis il allait prendre un café. Après son café, il allait au pistolet, dans une boutique de pistolets Nunchaku. Il a acheté ses pistolets avec les cartouches, il l'a armé. Au pas de la boutique, le premier garçon qui passait avait 22 ans, Gopa, il a tiré sur lui, il l'a tué. Les policiers sont intervenus et le jour de son procès à Pretoria, le juge lui pose la question, « Monsieur Van der Merwe, est-ce que vous connaissez Gopa ?»« Non, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il ne m'a rien fait. Mais pourquoi l'avez-vous tué ?» Et il explique ce que je viens de vous tuer. Moi, en Afrique du Sud, je n'ai pas tué un noir encore, je voulais en tuer un pour m'offrir un cadeau. Alors, un étudiant africain à l'école de criminologie, c'est vrai que j'étais comme Job, n'est-ce pas, je n'avais pas de revenus. Un professeur vient m'offrir de me payer pour faire ma thèse, c'est une main, n'est-ce pas. Lorsque j'ai vu ce drame, lorsque le professeur est venu au terme d'une semaine de réflexion, j'ai dit, Monsieur Maurice Cuisson, est-ce que je pourrais faire ma thèse sur un autre sujet que celui que vous m'avez proposé? Il m'a dit, ça ne faisait pas partie de ses plans, mais formule toujours ton sujet. Alors je lui dis, je voudrais faire ma thèse sur les normes internationales et la criminalité de l'État et cette analyse criminologique, la violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique du Sud. Voilà comment, n'est-ce pas, pour faire bref, alors M. Cuisson a dit, mais je ne suis que criminologue, je ne connais pas le droit, encore moins la politique, comment veux-tu que je puisse accepter cela? Alors je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous accepterez une co-direction? Il a dit, niet. Alors je dis, mais écoutez, pour des raisons que je ne peux pas vous exprimer, je ne peux pas faire ma thèse avec vous. Il était étonné parce qu'il connaissait ma condition sociale. Mais enfin, j'ai choisi de consulter les professeurs. Il y a un qui a eu l'amabilité d'accepter. Il a co-dirigé avec les gens, dont un politicien célèbre que vous connaissez, dont je ne partage pas les points de vue, évidemment, qui me vaut aussi un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas, M. Daniel Turp, que vous connaissez, qui est, n'est-ce pas, a été député du Bloc et ensuite maintenant député du Parti québécois et finalement qui a accepté de co-diriger la thèse parce que lui-même avait travaillé sur ce sujet et donc était professeur de droit public et donc a eu l'amabilité d'accepter. Alors c'est comme ça, pour faire bref, l'histoire de cette couverture. Alors je vais, comme je ne suis pas le seul panéliste, je vais rentrer dans le vif de mon sujet et je demanderai aux techniciens de mettre un tableau sur à la place de cette couverture. essayer celui-là. Voilà.
C'est ça.
Okay. Bien, bon souvenir. Alors donc, lorsque j'ai fait ma thèse, et l'examinateur externe était très gentil et m'a demandé de faire un livre parce qu'il trouvait que c'était un enseignement complet sur le sujet. Et M. Turp aussi m'a vivement conseillé de faire un livre sur le sujet. D'autant plus que le sujet est d'actualité au Canada avec la question du Québec. Alors, mais comme les thèses que je développe ne va pas dans le sens que lui, il aurait souhaité, mais il m'a dit tout de même académiquement, pour être honnête avec toi, les gens de l'ONU, s'ils voient ce que tu as fait sur ce sujet, ils auront honte de tout ce qu'ils ont fait actuellement sur le sujet des droits des peuples. Alors donc, si je choisis de vous, à la demande de M. Ndandou, de vous parler des droits des peuples, c'est parce que à l'université de façon générale, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. En réalité, lorsque vous êtes habitué, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'enseignement des disciplines scientifiques, une des choses qui vous frappe le plus aujourd'hui dans les institutions d'enseignement, et notamment dans les universités, c'est que toutes les disciplines sont affectées par la confusion. La confusion, c'est quoi? Qu'en fait, nous produisons des discours avec des concepts, n'est-ce pas, qui ont été créés à une époque déterminée, mais qui aujourd'hui, n'est-ce pas, à cause du fait que l'histoire, l'effet de l'histoire, ces concepts n'ont plus pour propriété de cerner les faits dont nous voulons parler. Et tel est le cas, n'est-ce pas, de l'État. Cela s'explique pour des raisons, évidemment, des rapports de force aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont créé ces discours-là et qui n'ont pas intérêt à ce que ces discours soient changés, parce que si ces discours changent, nécessairement, il y a une conséquence historique qui va en résulter. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, si aujourd'hui vous vous mettez, n'est-ce pas, à faire une sociologie du droit, à faire une analyse critique des disciplines de façon générale herméneutique, vous allez voir qu'au fond, les concepts, n'est-ce pas, à cause de la distorsion qu'ils créent par rapport aux événements et par rapport aux phénomènes, n'ont pas pour propriété, n'est-ce pas, de nous permettre de lire notre propre réalité. Et donc, ce que l'Amérique personnellement m'a donné à moi, c'est la capacité justement d'apprendre le témoignage sur moi-même, c'est-à-dire de déconstruire, autrement dit, les discours. Qu'en réalité, le sujet dont je vais vous parler, n'est-ce pas, le sujet de l'État, n'est-ce pas, il s'agit, en parlant du Congo indépendant, de se poser la question, est-ce que, dans les faits, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut être considérée comme un pays indépendant? M. Ndandou a répondu à la question. Moi, en faisant ma thèse, je me suis dit, je vais aller à l'origine des choses, parce que, vous savez, pour ne pas laisser de quartier ou laisser très peu d'espace, ne pas prêter trop facilement le flanc à la critique, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de ne jamais oublier l'enchaînement des choses. C'est de voir comment, n'est-ce pas, les choses se sont manifestées initialement, comment ces choses se sont développées, et regarder dans ce développement ce que les choses sont devenues aujourd'hui. Et c'est ce que je fais avec la terminologie « droit des peuples », mais en le situant dans le temps, dans le monde contemporain. Et donc, la question, pourquoi dans le monde contemporain? Parce que nous, en tant qu'Africains, notre condition a été décisivement déterminée par cette période-là. Et qu'est-ce qui vous frappe le plus? C'est le fait que durant l'époque contemporaine, le monde euro, n'est-ce pas, occidental, a pu dominer, n'est-ce pas, l'univers, par sa capacité physique, par sa capacité économique après. Qu'en fait, d'ailleurs, l'artisan, n'est-ce pas, parce que contrairement à ce que les gens pensent, même s'il n'y a pas de lien entre libéralisme politique et libéralisme économique, une chose est certaine, n'eût été le libéralisme, n'est-ce pas, politique, le libéralisme politique nous permet de révéler, n'est-ce pas, les caractères antinomiques entre ce qu'on appelle la liberté de faire des affaires ou des économiques et les droits, n'est-ce pas, à l'autodétermination. Et cela se lit dans quoi? À travers l'histoire d'abord de la Révolution puritaine et ensuite à travers l'histoire de la Révolution française et de la Révolution américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Révolution des États-Uniennes. Si vous regardez essentiellement ces trois révolutions, qu'est-ce qui les caractérise? C'est le fait d'abord, pour prendre le premier, la révolution puritaine, c'est-à-dire celle anglaise, il s'agissait effectivement de poser la question du droit des peuples sur le plan interne. D'abord, sur le plan interne, donc, c'est poser quoi? La question de la monarchie. La question du despotisme. Et ce despotisme, c'était quoi? C'était que le roi, et notamment Charles Ier, n'est-ce pas, était quelqu'un qui ne tenait pas compte des engagements de ses prédécesseurs. Et ces engagements, c'était quoi? Qu'à un moment donné, le frère de Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, devait, n'est-ce pas, dire on va atténuer les excès, n'est-ce pas, de la monarchie. Et il a dû signer donc la Magna Carta, des engagements vis-à-vis, n'est-ce pas, du peuple anglais ou de ses représentants. Les rois ont été tant bien que mal de respecter ces engagements. Quels sont les éléments de ces engagements? En fait, les gens voulaient tout simplement que le roi n'abuse pas du pouvoir, qu'il ne se permette pas d'élever des impôts n'importe quand, n'importe comment, de faire la guerre quand il veut, ou, n'est-ce pas, de priver quelqu'un de sa liberté quand il veut. Et donc, ces personnes n'ayant pas réussi à convaincre les princes anglais, ce qu'ils ont fait, c'est que, à un moment donné, ils se sont révoltés. Et cela s'est passé au moment où Charles Ier était justement au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Le Parlement se révolte contre le roi et le chef de l'armée, n'est-ce pas, M. Cranwell, fait alliance avec le Parlement. Et donc, il prend la tête finalement des gens qui se révoltent contre la monarchie et finalement, en deux épisodes, n'est-ce pas, il arrive à gagner la guerre, c'est-à-dire entre 1742 et 745, et 747 et 749. En 749, ils arrêtent, n'est-ce pas, Charles Ier, ils le font juger et ils le raccourcissent, c'est-à-dire ils le décapitent. Alors, à partir de ce moment, commence une longue épisode. Lorsque Cranwell triomphe, les parlementaires lui demandent, écoute, pourquoi tu ne deviendrais pas notre roi? Il dit, mais je n'ai pas fait tomber Charles, n'est-ce pas, pour me couronner. Et ce qu'il a proposé, c'est de créer ce qu'il appelle la Civitas, la République anglaise. Et cette République anglaise, finalement, elle a été théorisée par qui? Par le secrétaire du chef du Parlement qui avait réussi à fuir et aller se réfugier chez les princes d'Orange en Hollande, Lord Strasbourg, n'est-ce pas, qui est John Locke. Et John Locke écrit, n'est-ce pas, les traités du gouvernement civil. Et lorsqu'il publie en 1790 la première édition, il s'est trouvé que, à cette date déjà, les princes d'Orange, puisque les peuples anglais n'avaient plus confiance à leurs propres princes, ils sont allés chercher, n'est-ce pas, des princes dans un pays où les gens étaient un peu respectés, qui était devenu l'asile finalement de tous les gens qui étaient persécutés. En allant chercher Guillaume III de Nassau, qu'est-ce qu'il faisait en même temps? Il faisait d'une pierre deux coups. Il dit, tu deviens notre roi, mais à condition que tu t'engages à respecter le Bill of Rights, le respect des droits. Pourquoi? Parce que les princes ne respectaient pas les causes pour lesquelles la Magna Carta a été votée. Et l'habeas corpus après. N'est-ce pas? Alors donc, vous voyez que le despotisme était un problème. Et c'est la raison pour laquelle la question du droit des peuples, d'abord fondamentalement en Europe, s'est posée sur le plan interne. Et ils ont dû le résoudre en faisant ce qu'on appelle la révolution. Et les théoriciens de cette révolution réussie, John Locke, a écrit les traités du gouvernement civil. Et dans ces traités du gouvernement civil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au fond, toute société devrait être organisée autour de la notion de propriété. Mais la propriété dans sa tête, c'était quoi? C'était d'abord liberty, n'est-ce pas? Parce que le roi ne laissait guère la liberté aux gens. Life, parce que, évidemment, il prenait la vie des gens quand il le voulait. Et estate, parce que, comme ils aimaient faire la fête et faire la guerre, et ils aimaient les beaux habits, ils ont pris les communaux, c'est-à-dire la terre aux paysans, et ils ont élevé des moutons, parce qu'il fallait avoir la laine, et ils ont créé la famine, d'où les jacqueries, n'est-ce pas, en Europe, qui justifiaient justement la mobilisation de la paysannerie derrière les révolutionnaires. Et c'est la raison pour laquelle John Locke, en théorisant la révolution réussie, va construire une nouvelle notion au détriment du despotisme. La société doit être fondée sur la propriété, mais cette propriété doit être faite dans le respect de la vie des gens, de leur liberté et du respect de leur propriété, de leur bien donc immobilier. Pourquoi? À l'époque, parce que la terre, c'était la terre nourricière d'abord. Voilà pour l'essentiel, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles une révolution interne, n'est-ce pas, était nécessaire. Et les Français, en regardant cela, en ayant contact avec connaissance des traités du gouvernement civil de John Locke, vous verrez que si vous lisez Montesquieu, de l'esprit des lois, en fait, ce n'est que la réplique des traités. En fait, le second tome, le second traité, n'est-ce pas? Parce que le premier traité, c'est pour parler de la féodalité, la conception de l'orphisme. Mais le second traité, c'est vraiment celui qui dit il faut que le pouvoir soit organisé sur trois éléments essentiels. C'est-à-dire, le pouvoir ne doit pas abuser du pouvoir, et pour qu'il n'abuse pas du pouvoir, il faut qu'un autre pouvoir puisse l'arrêter. Et c'est ce modèle qui est devenu aujourd'hui le modèle qui s'est répandu dans le monde entier par le biais du constitutionnalisme. Et donc l'État dans lequel nous vivons est né, n'est-ce pas, d'une conception européenne. Mais nous, les Africains, ce n'est pas nous qui avons choisi de vivre dans ce modèle d'État. Ce modèle d'État, vous comprenez à travers la brève histoire maladroite que je viens d'en faire, qu'au fond, il s'agissait d'un problème européen. Les Européens ont trouvé une réponse à leur problème qui était le despotisme. Les Français, en raccourcissant également Louis XVI, ne faisaient pas autre chose que de s'engager dans les sillons historiques tracés par les Anglais. Et évidemment, avant que les Français n'arrivent là, n'est-ce pas, les insurgents aux États-Unis les avaient inspirés. Et vous voyez que Jefferson et d'autres personnes ayant séjourné en France, ayant vécu l'histoire de la France, et étant retournés dans leur pays, n'est-ce pas, viennent avec ce cri de ralliement parce que qu'ils ont en fait péché quelque part en Europe, n'est-ce pas, notamment dans l'histoire de la Révolution anglaise et dans les bouillonnements sociologiques et philosophiques en Europe. Ils viennent et ils vont, avec les cris des ralliements, mobiliser, n'est-ce pas, l'Amérique des colons. Ils vont les mobiliser contre les traitements que l'Angleterre leur inflige. Et c'est ce qui est devenu la révolution américaine de 1776. Et ce cri des ralliements, n'est-ce pas, no taxation without representation. Alors donc, tout ça, c'est la vertu. C'est ça qu'on a appelé la démocratie en Occident. Mais vous comprenez historiquement que ce n'est qu'une réponse des Européens à un problème européen. Alors, la question fondamentale qui se pose, lorsque vous parlez des droits des peuples en Afrique, est-ce que, n'est-ce pas, l'antidote qui a été choisi historiquement par les Européens pour résoudre un problème du despotisme, est la solution que les Africains doivent utiliser pour résoudre la question du colonialisme. N'est-ce pas? C'est ça lorsque vous posez la question de la démocratie aujourd'hui en Afrique et la question de l'autodétermination, voilà une question fondamentale. Et bien souvent, lorsque vous prenez l'histoire, la courte histoire de l'Afrique dite indépendante, ce qui vous frappe, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire des votes pour nommer des gens à la tête du pays, l'initiative n'est même pas venue des Africains. Pour ce qui est de l'Afrique des dominations françaises, c'est au sommet de la Baule, lorsque M. Mitterrand a dit, écoutez, désormais, vous vous mettez tous à mon école. Si vous ne le faites pas, les rallonges budgétaires que j'ai l'habitude de vous payer pour que vos fonctionnaires ne se révoltent pas contre vous, n'est-ce pas, j'arrête de les payer. Et donc, tout le monde, finalement, s'est mis à faire ce qu'on a demandé de faire, c'est-à-dire la démocratie. Mais, nous, les Africains, est-ce qu'on connaît son histoire? Est-ce qu'on connaît son usage? Parce que si vous vous intéressez au concept de démocratie, vous vous rendrez compte qu'en fait, sans parler de la distorsion historique évidemment, si vous vous placez dans la logique, n'est-ce pas, euro-occidentale, vous allez à Athènes. Alors vous vous posez la question, quelle est l'origine finalement de cette démocratie dont on veut nous imposer coûte que coûte en Afrique? Vous verrez que M. Périclès, n'est-ce pas, au IVe siècle, va, pendant 15 années seulement, avoir la possibilité de mettre ça en pratique. C'est le seul cas historique où un peuple héro-occidental a essayé de se gouverner par lui-même. C'est la définition de la démocratie. Vous comprenez? Et ce qui s'est fait après n'est pas de la démocratie que je viens de vous raconter, qui s'est passée en Angleterre et qui a été mondialisée, qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Suisse, qu'on retrouve... Oui, la Suisse, c'est peut-être le seul cas qui essaie de faire comme Périclès en Occident. C'est le seul pays où je peux dire que lorsque l'initiative populaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire les référendums ou la pétition, n'est-ce pas, est mobilisée, cela a pour effet, si certaines conditions sont réunies, d'arrêter, n'est-ce pas, les actions du gouvernement, que ce soit au niveau municipal, au niveau cantonal ou au niveau fédéral. C'est le seul cas. Dans les autres pays, au Canada comme ailleurs, en France, l'initiative populaire est un exutoire, n'est-ce pas? Il ne correspond pas à une initiative qui va freiner la velléité ou la détermination gouvernementale. Et donc, en cela, la Suisse se rapprocherait de ce que Périclès a voulu faire en Grèce antique. Autrement dit, il ne faut pas utiliser les concepts démocratie pour caractériser ce qui se passe en Occident et qui nous vient de la révolution puritaine. Ce que les Anglais ont mis en place entre 1749, n'est-ce pas, 1749, donc le moment où ils ont décapité Charles Ier, jusqu'à 1768, c'est la parlementocratie. C'est-à-dire, il s'agit des modèles de dictature du Parlement. Ces modèles de dictature du Parlement, il s'agit des parlementaires, des propriétaires indépendants. Et c'est ce modèle, n'est-ce pas, qui a été répliqué un peu partout en Occident, qu'on appelle faussement démocratie. Parce qu'en Occident, il ne s'agit pas de la démocratie. Pour vous donner un exemple, et pas pour dénigrer, n'est-ce pas, vous connaissez cette expression, le petit gars de Sherwilligan, ou le petit gars de Beaucomont. Et vous comprendrez par là que c'est un poignet de villageois qui ont élu le premier ministre du Canada, et que par ailleurs, si ce n'était pas un modèle hérité de l'Angleterre, on ne peut pas dire qu'il a été choisi pour représenter tous les Canadiens, n'est-ce pas? S'il le fait, il le fait par la médiation des discours juridiques, c'est-à-dire le Parlement, n'est-ce pas? Et effectivement, il faut le reconnaître, les sociétés occidentales, y compris la Suisse, sont des sociétés de droit. Mais il ne faut pas faire la confusion entre sociétés de droit et démocratie, c'est des choses différentes, n'est-ce pas? Et il faut pas non plus faire cette grande confusion qui est encore plus énorme de penser qu'il y a, n'est-ce pas, une parité à établir entre le libéralisme politique qu'on exerce actuellement en Occident, c'est-à-dire l'état des droits, et ce qu'on appelle le libéralisme, n'est-ce pas, économique. Parce que le premier, le libéralisme politique, il a été complètement écrasé par les libéralismes économiques. Pourquoi? Parce que, et il n'y a pas, on n'a pas besoin d'être un clerc pour expliquer cela, il suffirait tout simplement de vous intéresser à l'histoire de l'économie qu'on appelle le free trade, et vous verrez que le free trade, ce n'est pas autre chose que l'aménagement de l'espace économique au moment où l'Angleterre pouvait dire le soleil ne se couche plus sur l'Empire. Vous savez, quand la reine Victoria mourait en 1901, la chose la plus répandue en Angleterre, qui faisait l'orgueil des Anglais, c'est que le soleil ne se couchait pas sur leur empire. Et il n'y a donc pas de surprise que Ricardo et Smith aient pu, dans ces contextes-là, théoriser, n'est-ce pas, l'économie libérale. Parce que le commerçant anglais et l'homme d'affaires anglais, dans les sillages de l'armée anglaise, pouvaient vaquer à ses affaires librement, sans contrainte. Et c'est ça qui est devenu, n'est-ce pas, ce qui s'est reproduit. Si aujourd'hui, les États-Unis peuvent dire globalisation, mondialisation is us, n'est-ce pas? C'est parce que les États-Unis, étant donné que les Européens se sont décimés dans les aventures bellicistes de 1914 et 1918 et 39-45, qu'ils appellent faussement d'ailleurs guerre mondiale, n'est-ce pas? Si, voilà encore des terminologies qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que vous, vos parents, lorsqu'ils sont allés aider les Européens pour arrêter l'hitlérisme, on n'a pas demandé leur permission parce que vous étiez le prolongement, n'est-ce pas, de ces empires coloniaux qui se battaient entre eux. Et donc aujourd'hui, académiquement, vous ne pouvez pas parler de guerre mondiale. Vous devriez utiliser des concepts justes en disant, écoutez, il s'agissait des aventures bellicistes héro-occidentales. Bref, pour vous dire qu'en fait, lorsqu'on parle de liberté aujourd'hui et de l'indépendance en Afrique et des droits des peuples, il ne faut jamais perdre de vue cette histoire. Et je répète, c'est-à-dire qu'en fait, l'arme, c'est-à-dire l'antidote qui a servi aux Européens d'arrêter ce qu'ils appellent le despotisme politique, est-ce que cet antidote-là doit être prise par des Africains pour corriger les colonialismes et les néocolonialismes? Vous conviendrez avec moi qu'en fait, si Mitterrand invite instamment les Français, les Africains plutôt, qu'il a dominé, à faire comme lui, ça veut dire donc qu'au fond, le fait que les Africains se mettent à la démocratie servirait beaucoup plus leur intérêt, n'est-ce pas, comme Français, que l'intérêt des Africains. Sinon, ils n'auraient jamais proposé cela. Et je vous dis pourquoi. Parce que lorsque vous observez, encore une fois, personne ne devrait être contre la vertu. La démocratie, son expression la plus nette, c'est le vote, c'est les urnes. Les urnes amenées en Afrique, quel est leur impact sur la société? Un ravage total. Le ravage consiste en quoi? À déstabiliser la société. À déstabiliser quoi? La solidarité entre les gens. Mais cela correspond aussi à un des objectifs de l'occidental, les droits de l'homme. N'est-ce pas? Les droits de l'homme, c'est vrai qu'au moment où Charles Ier coupait la tête des gens, c'est légitime pour les Européens de dire, écoutez, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de droits de l'homme, nous avons besoin de ceci et cela. Mais lorsqu'on a fait l'hypostasie de ces droits de l'homme, même en Occident même, n'est-ce pas, cela a eu pour effet de détruire les liens de solidarité et à créer quoi? À créer ce qui n'existait pas. À mettre dans la tête des Occidentaux qui sont des individus et qu'ils ont des droits, et que si on leur donne des droits, et que s'ils ne déduisent pas de ces droits, n'est-ce pas, ils sont considérés comme des illuminés. N'est-ce pas? Il faut déduire des droits quand ton droit est violé. Et à partir de ce moment, lorsque ton droit est violé, que tu dois déduire des droits, tu amènes la personne devant les tribunaux, il ne faut pas s'attendre après que vous soyez des amis. Mais en réalité, les droits de l'homme, ce n'était pas vraiment par générosité. Parce que si Cranwell était sérieux, le pensait réellement, les commerçants qui ont pris sa relève, qui l'ont succédé au pouvoir, ont vu qu'au fond, le droit servait à fragmenter la société en individualité par destruction du féodalisme. Et donc, à détruire tout lien de solidarité, ça veut dire, et vous le connaissez ici, en une certaine époque, une des choses qui m'avait le plus choqué, lorsque je suis arrivé ici, à l'université, n'est-ce pas, on avait des amis, Marie-France, l'anglais, et puis Julie et autres, et Marie-France avait 25 ans et habitait toujours avec ses parents. Et dans une conversation, j'apprenais que Marie-France, à 25 ans, habite encore chez ses parents, et c'était un scandale. Et vous comprenez que les droits de l'homme, en fragmentant la société en individualité, sert la cause des commerçants, parce que cela sert à élargir le marché. Vous n'aurez plus la même maison où vous allez partager la même assiette et le même frigo. Vous devriez, n'est-ce pas, ni que c'est la venue de la volonté de la Chine de vassaliser l'économie mondiale, n'est-ce pas, Dollar Store n'aurait pas existé, et donc on n'aurait pas pu avoir le loisir d'acheter une seule assiette ou une seule cuillère, n'est-ce pas, même si on habite seul. Il fallait acheter l'assiette, n'est-ce pas, qui est un minimum de 4 assiettes, de 4 gobelets pour boire le café ou le thé, de 4. Et donc, les droits de l'homme, en détruisant les liens de solidarité, a fragmenté la société, a empêché toutes sortes de compromis et a développé ce qu'on appelle en Occident un impérialisme individuel. C'est-à-dire qu'en fait, les gens aujourd'hui, la plupart des cas, ont tout pour devenir heureux, mais parce qu'ils sont devenus non pas des êtres humains, des personnes donc, mais des individus, ils sont affectés par ce qu'on appelle l'insécurité affective, n'est-ce pas, qui est la chose la plus partagée. Alors qu'en réalité, s'ils questionnaient ceux qui sont en train d'hypostasier et qui a été perverti, il faut le dire, qu'en fait, les droits de l'homme, c'est noble. Mais l'usage qu'on en a fait à cause de la volonté d'élargir le marché a donné un effet pervers. Et cet effet pervers, c'est le développement de l'impérialisme individuel. Et aujourd'hui, ces mêmes instruments sont utilisés en Afrique pour dire aux gens, écoutez, vous devriez faire la démocratie. Vous devriez vous développer en respectant les droits de l'homme. Alors, parlons des droits de l'homme. Alors, vous dites, moi, en tant qu'Africain, est-ce que dans ma culture, il y a cette notion de respect des droits de l'homme? Alors, pour nous déstabiliser davantage, nous qui avons été à l'école, qui n'avons pas appris à réfléchir, il reste combien?
Une minute.
Une minute, ok. Je vais faire vite. Je vais faire très, très vite. En fait, vous comprenez que j'ai beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, parce que je passe souvent la parole. Évidemment, et vous savez, je passe souvent la parole parce que dans la tête de beaucoup de gens, intellectuel africain est un non-sens, n'est-ce pas? Et donc, ce que je voulais dire fondamentalement, c'est que les Africains doivent apprendre à témoigner sur eux-mêmes. Ça, c'est le mot-clé, n'est-ce pas, de ma conférence. Le témoignage sur soi, c'est quoi? C'est la capacité. Il est vrai qu'on a été socialisé dans la langue des étrangers, dans la culture des étrangers. Nous devrions apprendre non pas à être des diplômés, c'est-à-dire des alphabétisés. Nous devrions apprendre, lorsqu'on nous donne des concepts, à les traiter, à déconstruire. Ce n'est qu'en cela, c'est-à-dire en déterminant ses propres concepts, en décrivant sa propre condition, qu'on peut être capable de créer un certain mieux, c'est-à-dire d'aspirer à ce que j'appelle la bonne vie. La bonne vie, c'est après tout, n'est-ce pas, tout ce que, lorsque les gens vous disent développement, quelle société ne serait pas en développement? Tous les pays sont en développement. Et donc, ces concepts-là, je ne les utilise pas moins, moi, personnellement. Je les utilise moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés, c'est des instruments idéologiques qui sont très, très chargés. Et donc, ce que j'ai fait, l'effort que j'ai fait, et auquel je vous invite, c'est de devenir non pas des gens qui veulent accumuler des diplômes pour accumuler des diplômes. Dites-vous bien que tous les diplômes que vous avez eus en Occident ne valent rien du tout. Si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, d'appréhender votre propre condition avec vos propres concepts, parce que c'est en cela seulement, n'est-ce pas, par ce témoignage sur vous-même, que vous réussirez, et je vous en conjure que vous réussirez, n'est-ce pas, à faire de vous des êtres épanouis, des êtres développés, des êtres indépendants, des êtres capables de disposer d'eux-mêmes et de rencontrer les autres peuples, non pas dans la haine, parce qu'on ne peut rien construire de positif dans la haine. Et c'est la raison pour laquelle, au début de mon discours, je vous ai dit, en vous montrant les tableaux, il faut être exigeant envers vous-même. À quoi ça me servirait de m'apitoyer d'être la victime? Qu'est-ce que la victime? La victime, c'est la réminiscence, c'est l'absence de perspective. Je n'abuse plus de vous, je vous demande, n'est-ce pas, de m'excuser et d'avoir eu la patience et l'amabilité d'avoir écouté mes quelques petites observations qui étaient maladroitement formulées. Je vous remercie.
Les droits des peuples, des origines jusqu'à l'ONU. Alors, merci beaucoup, professeur Gérard. Nous aurons un question hour.
Ok,
merci.
Nous
aurons
des questions. Nous aurons des questions.
Je voudrais vous présenter mon jeune ami, M. Pascal Chevrier, du mouvement Jeunesse Larouche au Canada, et qui va nous présenter son sujet que nous attendons avec beaucoup d'impatience.
Oui. Alors, M. Ndandou m'a demandé de faire une présentation sur le sujet de la décolonisation et recolonisation, en fait pas juste du Congo, mais de l'Afrique en général. Et nous avions eu une discussion où il m'expliquait en fait un sentiment qui existait après la Deuxième Guerre mondiale, on m'excusera pour la formulation, après la Deuxième Guerre mondiale, où en fait la génération des parents de M. Ndandou voyait en fait une espérance ou une promesse en Amérique, en les États-Unis, qui en fait amènerait un changement de cap, merci. Un changement de cap en Afrique. Et donc, mais Albert me disait aussi que ce n'était pas nécessairement partagé par la jeunesse à l'époque congolaise qui voulait avoir une indépendance, mais ce n'était pas pour que d'autres viennent en fait donner l'indépendance. Et c'est normal. Mais il y a quelque chose que j'aimerais en fait pointer dans la bataille qui a encore cours aujourd'hui face à savoir en fait comment le monde va être géré. par qui et comment. Et je voulais parler de Franklin Roosevelt contre Winston Churchill. Et donc, les deux idées, en fait, complètement aux antipodes de la République et de l'Empire. Donc, mais il faut dire, premièrement, que la République américaine, depuis 1776, n'a pas été parfaite. Il y a eu des problèmes, il y a même eu des traites qui ont été, si on regarde aux idéaux américains, il y a eu des traites qui ont été placées au plus haut poste dans la République américaine. Je pense que ce n'est pas le seul pays, mais pour cet exemple-là, pour les idéaux qui ont été, pour lesquels ils se sont battus, on pourrait y revenir, il y a vraiment complètement une antinomie avec l'Empire britannique. Et ça, Franklin Roosevelt le savait, parce qu'il venait d'une famille qui était quand même aisée, famille de on pourrait dire, l'aristocratie américaine, dans laquelle, en fait, il avait eu son grand cousin, Theodore Roosevelt, était notamment, lui, plutôt du côté de l'Empire que de la République. Mais il avait aussi eu un ancêtre, Isaac Roosevelt, qui s'était battu avec Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor américain, à avoir bâti une banque nationale. Parce que pour lui, en fait, l'idée de l'indépendance politique, c'était aussi l'indépendance économique des 13 colonies de l'époque. Et aujourd'hui, je vous disais que la bataille a encore lieu. Et on la voit, je l'ai même vu cette semaine, quand j'ai entendu un discours de M. Henry Kissinger, qui est sûrement très bien connu en Afrique, au Congo, où, en fait, il mentionnait que le système d'État-nation était un vieux système, un système archaïque qu'on devait mettre à la poubelle et aller plutôt pour justement cette idéologie libérale, cette idéologie de privatisation au niveau international. Et donc, M. Kissinger. Henry Kissinger avait donné un discours en 1982 à ce qu'on appelle la Chatham House ou le Royal Institute for International Affairs à Londres, où il avait justement mentionné en fait sur quel côté il se positionne quand il en vient de la question des affaires extérieures des États-Unis.